Nous lisons la parole de Dieu dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, versets 1 et suivant. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, de Bethphagé et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, dès que vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il le laissa venir ici. Ils s'en allèrent, trouvèrent un ânon attaché dehors, près de la porte de la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa aller. Amen. J'ai deux mots à vous transmettre ce matin, je vais les illustrer, je vais les commenter au mieux. Les deux mots que j'ai reçus pour nous ce matin, détacher pour être attaché. Détacher pour être attaché. Et à la suite de cette lecture, vous pouvez déjà imaginer un certain nombre de choses qui vous viennent à l'esprit et ceci est aussi la suite de ces baptêmes formidables que nous avons eu dimanche passé et qui illustrent également cette vérité spirituelle indispensable que nous sommes détachés de quelque chose qui nous liait pour être attachés à quoi et à qui ? Au Seigneur. Les détachements de la vie sont indispensables et pourtant ce n'est pas naturel ni facile. Toute la vie c'est du détachement, avez-vous remarqué cela? L'enfant qui est porté par la maman dans son ventre ne va pas rester attaché à elle, il va venir au monde et c'est le premier détachement qui aura lieu, nécessaire, prévu par le Créateur bien sûr, c'est comme ça que la vie fonctionne. Ensuite, dans un deuxième temps, l'enfant va être près de sa maman, proche de sa maman. L'enfant va être allaité très souvent et arrivera le temps du sevrage où l'enfant sera détaché de cette proximité, de cette intimité, d'une certaine manière pour grandir et prendre un aliment différent. Il grandit gentiment. Ensuite, il va aller à l'école. Nous l'avons tous fait. Il arrive encore une étape de détachement. Où on dit au revoir maman, au revoir papa, et on le voit partir tout seul, à l'école. Et puis tout à coup, la parole de la maîtresse va être aussi importante. Il n'y a pas que la parole de maman et de papa qui est la parole, mais il y aura aussi la parole d'autres personnes qui vont l'influencer, un détachement supplémentaire. Ensuite arrive une période que nous connaissons tous comme une période quand même un peu délicate, l'adolescence. En tant qu'enfant, l'enfant va dire... Le garçon va dire « Papa est le plus fort » ou bien « Maman, c'est elle qui résout tous les problèmes ». Mais lorsqu'il est adolescent, bien sûr, il va dire « Mes parents sont dépassés, ils ne comprennent plus rien, ils ne savent pas et c'est certainement pas le plus fort, etc. » Un détachement supplémentaire. Ensuite, l'adolescent grandit, le jeune va aller aux études et tout à coup il va partir peut-être loin aux études pour un échange scolaire, etc. Il va encore y avoir un détachement géographique important qui fait que le détachement de la vie et de la croissance naturelle se poursuit. Ce jeune un jour va trouver chaussure à son pied, va se marier et là c'est vraiment la création de la nouvelle cellule familiale. Le détachement va encore se poursuivre. Avec la nouvelle famille qui se constitue, nos enfants, nous restons en contact, etc. Mais le détachement se fait encore. Et l'ultime détachement, il faut aussi en parler, le dire et le mentionner, c'est la mort, c'est la séparation. Mais le chrétien a une espérance extraordinaire, c'est que le détachement va être les retrouvailles auprès du Seigneur pour toujours. Plus jamais détachés, mais être ensemble dans ce projet merveilleux de l'unité et du rassemblement final que le Seigneur a prévu pour ses enfants. Donc la vie nous apprend ces détachements successifs tout au long du cours de la vie. Pourquoi ? Pour nous faire grandir, pour nous faire grandir en maturité, pour qu'on prenne soi-même ses responsabilités et qu'on grandisse. Et le Seigneur veut cela aussi pour nos vies, qu'il y ait certains détachements pour notre croissance, des détachements pour grandir et entrer dans notre véritable vocation et notre destinée, notre destinée. Le but, c'est de nous amener à la maturité, à la croissance, pour devenir des êtres responsables, capables d'être à notre tour des exemples pour d'autres. Est-ce que vous voulez cela ? Alors, il y a beaucoup de gens qui refusent ce genre de détachement. Ils veulent toujours tellement désécuriser, ils veulent garder les choses par peur du changement, par peur que ça puisse les blesser, qu'ils se sentent seuls, etc. Mais la vie naturelle le veut ainsi, et la vie spirituelle le veut aussi ainsi. Le texte que nous venons de lire nous parle de cette entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Jésus est à la veille de sa passion, elle va bientôt arriver, cette dernière semaine, cette semaine où Jésus va devoir se centrer tellement sur le plan du Père et que toute sa mission va se centrer sur l'essentiel, donner sa vie à la croix pour chacun de nous. Cette dernière semaine va être la semaine charnière et cruciale pour lui, semaine de souffrance. Le plan de Dieu arrive à son point final, à son point culminant. Il ne faut pas le rater. Et il choisit de rentrer dans sa ville bien-aimée. Il choisit de rentrer chez lui. Amen. Il est chez lui. Jérusalem, c'est sa ville choisie. Jésus est Dieu, c'est le Fils de Dieu. Et il rentre chez lui sur un ânon, alors qu'il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, parce qu'il accomplit parfaitement une prophétie. Une prophétie qui est écrite dans Zacharie chapitre 9, verset 9, où il est dit « Sois transportée de joie, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Comme la prophétie est précise, comme elle est magnifique en décrivant le roi des rois et en décrivant cette joie qui va être générée d'une manière surnaturelle aussi par le Saint-Esprit, par toute cette population de Jérusalem et des environs qui va célébrer l'entrée de Jésus chez lui. Et on peut imaginer lorsque Jésus est monté au ciel, si ça, ça a déjà été une fête sur la terre, quelle sera la célébration lorsque Jésus est remonté vers son Père et lorsqu'il est entré, le psaume 24 nous le dit, « Portez, levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. » Quelle joie, quelle célébration extraordinaire et unique lorsque Jésus est revenu chez son Père après avoir accompli le salut pour toi et pour moi. Quelle joie ce sera lorsque l'Église tout entière sera présentée au Fils comme l'épouse et lorsque cette célébration de la Nouvelle Jérusalem aura lieu. Mes amis, nous devons penser à cela. Cela nous donne une perspective de joie éternelle et d'espérance sans mesure, même au plus profond de nos détresses. Et je pense à ces chrétiens persécutés qui n'ont plus rien, on leur a tout enlevé, mais on ne peut pas leur enlever ce genre d'espoir de savoir que la plus grande joie, la plus grande dimension d'allégresse, la plus grande dimension de victoire sera encore à venir pour eux comme pour nous. Mais plus nous sommes détachés, plus nous pouvons vivre ces choses dans la plénitude. Le roi des rois va monter sur un petit âne. Et le petit âne ne sait pas encore qu'un beau ministère l'attend. Un ministère extraordinaire l'attend de pouvoir porter le Christ, le Fils de Dieu. En effet, un âne, même jeune, il est prévu pour porter une charge. Il est prévu pour avoir sur son dos une charge ou un cavalier. Il sert à cela. Et le texte nous dit que le propriétaire de cet âne ce qui d'abord demande « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Lorsqu'il entend que c'est Jésus qui en a besoin, à l'instant, nous dit le texte, à l'instant, il le laissera partir. Lorsque la parole d'autorité de Jésus apparaît et est proclamée, transmis par ses disciples, alors, à l'instant, même un âne a des oreilles. Qui que ce soit, il faut entendre, il faut obéir. C'est le temps de lâcher, de se détacher, d'être détaché pour ma mission qui est celle de porter Christ et finalement d'avoir la même destinée que lui. L'Écriture va donner donc quelques précisions que je voudrais maintenant entamer. Premièrement, pour que cet anon rentre dans sa vraie vocation, c'est-à-dire de porter le Christ, porter le Messie et avoir le privilège de l'amener chez lui, dans sa ville, la Jérusalem bien-aimée, ville élue de toute éternité, il faut qu'auparavant il soit détaché de son piquet. L'anon n'avait pas le choix, il suivait ce qu'on lui faisait faire. Mais nous avons ce matin le choix, frères et sœurs. Nous sommes tous responsables pour choisir quelque chose. Et la première chose qu'il nous faut choisir, c'est de choisir le détachement. Le détachement, c'est la phase numéro une. La libération doit intervenir afin que tout le potentiel de ce petit anon qui... On peut imaginer, soit il était en train de brouter tranquillement, et puis lorsqu'on est venu le détacher, il se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Il ne comprend rien, et puis il entre bon gré, mal gré, il est un peu conduit comme ça, et il rentre dans quelque chose qu'il découvre petit à petit. Ah, c'est quand même pas mal d'être applaudi par tout le monde, et puis je suis au centre de l'image, de la scène, et puis ça a l'air d'être très très sympathique. Ou alors il est là, attaché à son piquet, et dit « mais pourquoi je reste attaché à ce piquet? C'est pas juste. Pourquoi c'est moi qui dois être attaché ici? Pourquoi on m'enlève la liberté ?» Il y a plusieurs possibilités, on peut imaginer toutes sortes de choses, mais ce matin, chacun de nous, nous avons le choix de dire « j'ai besoin de certains détachements pour entrer dans ma vraie vocation. Pourquoi ? Parce que Jésus en a besoin. » Jésus te dit ce matin « comme j'ai eu besoin de ce petit animal quasi insignifiant pour me porter » et réussir sa vocation pour que moi, je puisse atteindre le but, pour que l'Évangile atteigne son but, le Seigneur a besoin du moindre d'entre nous. Amen. Du moindre d'entre nous. Mais pour cela, il nous faut d'abord être détachés. Et ce détachement, écoutez bien, ce détachement doit être volontaire. Volontaire. Il faut que nous soyons d'accord d'être détachés. Et la première chose qu'il faut comprendre, et c'est ce qui a été signifié dans les eaux du baptême, je fais la connexion avec dimanche passé, c'est que nous devons être d'accord de changer de propriétaire. Le propriétaire de l'anon devait lâcher son bien pour le redonner à Jésus, qui est un propriétaire supérieur. Il y a une autorité supérieure. Il doit se soumettre à un propriétaire plus fort que lui. Lorsque Israël est sorti d'Égypte, après avoir été esclave pendant plus de 400 ans, il y a eu changement de propriétaire ou de maître d'esclaves. Israël est sorti sous la conduite de Moïse, avec l'autorité que Dieu avait donnée à Moïse pour délivrer Israël, pour faire plier ce propriétaire qui s'appelle Pharaon, et pour qu'il quitte ce lieu, ce royaume de l'Égypte, ce royaume de l'ennemi, pour entrer au travers des eaux de la mer Rouge, image du baptême, pour passer à travers de ce baptême, nous dit le texte dans 1 Corinthiens chapitre 10, en utilisant la même image, pour entrer dans la véritable destinée de la libération, pour entrer dans le pays promis. Cette image de la séparation et du changement de propriétaire est absolument indispensable. Regardez avec moi dans Romains chapitre 6, versets 16 et 17. Romains 6, où la Bible parle de ce changement de propriétaire. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ?» Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur, et j'ai souligné cela, de cœur, volontairement à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. L'apôtre Paul va dire à plusieurs reprises dans cette épître que nous devons être libérés de l'esclavage et du propriétaire, du maître mauvais qui s'appelle le péché. Nous sommes vendus au péché, nous avons un maître d'esclaves terrible qui nous oblige et qui nous maintient dans son royaume de péché. Et Jésus est venu pour nous délivrer, pour délier les chaînes, les liens et nous emmener dans un autre univers, un autre royaume où nous sommes également attachés. Nous ne sommes pas déliés pour être libres de faire tout ce que nous voulons. Nous sommes libérés pour être attachés à lui. C'est pour ça que les mots obéissance, soumission ont tous leur signification. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là ? Le but, c'est de ne plus être esclave du péché. Et cette rupture doit être radicale et sans compromis. C'est pourquoi le baptême est une immersion totale qui signifie une mort à quelque chose, une rupture définitive et radicale pour une résurrection, c'est-à-dire un attachement avec le Seigneur, d'où l'engagement du baptisé de rester attaché à Christ jusqu'à la fin. Les liens doivent être définitivement détachés. Il est bien marqué dans le texte tout à l'heure de Marc et puis dans les textes parallèles, Luc et Matthieu, il est dit « détachez-le », là non. C'est marqué « déliez-le », « détachez-le ». Il faut le détacher. Il ne peut pas rester encore accroché avec quelque chose et traîner un fil derrière lui pour revenir à son propriétaire. Il est détaché pour rester attaché définitivement au Seigneur. Je pense à ce sketch qu'on a souvent vu lorsque dans les soirées d'évangélisation ou sur la rue. On l'a montré également bien des fois ici à Genève, dans les équipes d'évangélisation, lorsque nous avions laissé plein air à la place Bel Air, par exemple, nous symbolisions avec les jeunes quelqu'un qui était attaché au péché et qui pensait s'en sortir de lui-même. Alors, il y avait donc quelqu'un qui jouait, quelqu'un qui avait une grande liberté, soi-disant, et puis il y avait quelqu'un par derrière avec un petit fil qui l'attachait sans qu'il ne se rende compte, et puis tout à coup, il voit qu'il a un petit fil enlacé autour de son corps, et puis il dit, mais qu'est-ce que c'est ? Il fait comme ça, et il brise tous les petits fils pour continuer son sketch, pour montrer sa liberté. Puis, après, la personne va entourer cette personne tout doucement, sans qu'il ne s'en aperçoive, avec un grand nombre de tours de ce petit fil. Et à un moment donné, la personne se sent de plus en plus encerclée, enserrée par ces fils, et il essaye à un moment donné de s'en défaire, il n'arrive plus. Et ces petits liens avec le temps deviennent des liens impossibles de rompre. Nous avons besoin que quelqu'un vienne de l'extérieur avec autorité pour dire « détachez-le maintenant. Il faut que les liens soient rompus définitivement. C'est une rupture avec l'ancien propriétaire qui est la première chose. Ensuite, il y a une rupture, je vais plus loin dans cette réflexion, cette rupture avec l'ancien propriétaire, mais aussi cette rupture avec le péché secret dans ma vie. Frères et sœurs, il y a un problème chez beaucoup de chrétiens. C'est qu'il y a des choses dont nous avons honte et dont nous ne parlons à personne, qui sont des liens secrets, parce qu'on n'ose pas en parler. On a peur du changement, on a peur de ce qui pourrait arriver, et la honte pèse sur nous, sur beaucoup qui, finalement, traversent la vie avec ces liens secrets, dont même parfois le conjoint n'en sait rien, dans ces liens intérieurs, qui vous volent la joie, qui vous volent la paix, qui volent votre énergie, qui vous maintiennent captifs à un piquet auquel vous êtes attaché et qui vous empêchent d'avancer, d'aller dans votre véritable mission et ministère pour porter Christ. Et vous dites, mais je ne suis pas digne de porter Christ avec ce que je vis et ce marasme dans lequel je suis et je ne m'en sors pas, c'est trop grave, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Mais ce matin, peut-être que si quelqu'un a perdu courage en disant « c'est comme ça depuis si longtemps, on a pourtant prié, il n'y a pas eu de changement, on a pourtant tout fait, j'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné, j'ai déjà invoqué le Seigneur, j'ai déjà beaucoup pleuré pour ça, mais pourquoi il n'y a pas de changement ?» Ce matin, la puissance de la parole de Dieu qui envoie ses disciples pour dire à ce propriétaire « détachez-le ». cette même parole peut produire le changement dans ta vie et te détacher du péché secret, de la mauvaise habitude secrète, du mauvais fonctionnement secret dont tu souffres et dont d'autres souffrent aussi inévitablement. Les choses peuvent changer parce qu'il est possible de rompre ces liens si toi et Dieu vous travaillez ensemble. Je m'explique. Il faut que je réalise quelque chose tout d'abord. Il faut que je voie premièrement les conséquences de maintenir cette attache. Il faut que je réalise tout ce que je perds, tout ce qui m'affaiblit, mon témoignage qui est fichu. Je suis privé d'une plénitude, d'une bénédiction, et cette persistance dans ce lien produit un grand malheur. Il faut que je réalise les conséquences. Si ça continue comme ça, eh bien cette séparation va conduire à la mort. Il faut que je réalise les conséquences de ce lien, premièrement. Et deuxièmement, vous devez avoir un deuxième choix, une deuxième décision. Il faut en avoir jusque-là. Il faut en avoir assez. Tant que vous aimez cette chose secrète, même un petit peu, vous restez attaché. La délivrance est impossible. Il faut vouloir s'en détacher coûte que coûte. Il faut en être fatigué. Il faut en avoir assez. Ça, c'est notre part. Il y a la part de Dieu qui te dit, je sais bien que tu n'arrives pas par toi-même, mais je mets à ta disposition ma puissance. Je te donne ma force. Je vais intervenir surnaturellement et moi faire le travail. C'est les disciples qui sont venus détacher l'anneau. L'anneau, ce n'est pas détaché lui-même. C'est les disciples qui sont venus le détacher. De la même manière, le Seigneur, par sa puissance et son autorité, opère lui-même la délivrance. Dans la mesure où j'ai compris les deux premiers points, il faut vraiment le vouloir et en avoir assez. Et il faut voir les conséquences de tout ce temps perdu, de toutes les fois où tu attristes le Saint-Esprit, de toutes les fois où tu vis au strict minimum alors que Dieu veut faire grandir ton appel, ton ministère, ton service pour Dieu. Sois au conscient de tout ce que tu rates en restant simplement rattaché à cette chose. On pense souvent, j'ai entendu ça, oui, mais ce sont des petites choses, je gère. Ah oui, mais je ne suis pas alcoolique, je gère mon petit verre. Non, c'est l'alcool qui te gère. Ce n'est pas toi qui gères, c'est l'alcool qui te gère. Ça peut être plein d'autres choses. Oui, je sais comment faire. Vous savez, ce sont les petites choses qui maintiennent. Pour entrer dans la mécanique, on sait très bien qu'un petit peu de sable dans le carburateur de votre moteur, ça stoppe un gros camion. Un gros véhicule, il est stoppé par un petit peu de saleté dans le carburateur. Des petites choses. Une petite fuite dans un bateau fait couler un immense bateau de centaines de tonnes. Une petite fuite, avec le temps, va faire couler tout. Une petite mite peut détruire votre plus beau manteau que vous avez acheté des milliers de francs. Un petit quelque chose vous détruit à la longue. Un petit péché brise la communion avec Jésus. La rupture avec le péché secret est indispensable pour entrer dans le vrai service pour lequel nous sommes prévus. Écoutez encore cette parole. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai changé de propriétaire, je ne m'appartiens plus, dit l'apôtre Paul à moi-même. Vous avez été rachetés à un grand prix. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, c'est-à-dire à notre nouveau propriétaire. Nous lui appartenons. Nous devons être clairement définis là-dessus. Nous sommes à lui. Ensuite, nous avons dit qu'il faut être détaché de l'ancien propriétaire et du péché, parfois le péché secret. Nous devons également être détachés de tout ce qui alourdit notre marche. Je ne vais pas trop commenter, mais simplement lire le texte Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Il est dit, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, alors rejetons tout fardeau Détachons-nous de tout fardeau. Délions-nous de tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, comme tout à l'heure, ce petit fil qui encercle la personne, hein, qui joue la personne qui se croit libre. Le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Ça veut dire que pour être libre, nous devons être détachés de tout ce qui alourdit les casseroles qu'on traîne. Les choses lourdes qu'on traîne. Il y a des gens qui traînent des tristesses, qui traînent des choses du passé. Il faut qu'il y ait vraiment cette section, cette coupure, des soucis, des inquiétudes. Nous vivons dans un monde inquiet, où beaucoup ont dépassé le stade de l'inquiétude et sont déjà dans l'angoisse. Dans l'angoisse. Le Seigneur veut nous libérer de ça. Maintenant, il y a encore un autre point. Il faut également se détacher d'autres choses. Et Jésus nous le dit dans Luc chapitre 9, verset 59. Luc 9, 59. Voici ce qui est dit dans ce texte. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Il n'est pas le temps pour développer en long et en large ce texte. Et parfois, il est mal compris. Certains pensent que le Seigneur veut rompre les familles, qu'on n'a même pas le droit de dire au revoir et puis de faire quelque chose de complètement différent. Et ces ruptures dans la famille sont parfois utilisées pour dire, voilà, cette Église encourage la rupture de la famille. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes pour l'unité. Or, l'Évangile comporte une composante difficile, et c'est de ça qu'il s'agit. Si tu vas à la maison et que tu veux demander l'accord et le consensus de tout le monde pour répondre à ton appel personnel, Jésus dit, si tu fais ça, tu peux obtenir leur bénédiction, mais ce n'est pas garanti du tout. Tu peux aussi obtenir le contraire. C'est-à-dire la personne qui dit, attends Seigneur, je dois d'abord dire au revoir à mes parents. Et les parents disent, mais attends, t'es pas fou de faire ce que tu veux faire. Walter, tu veux partir à l'école biblique, alors t'as ton diplôme en poche, ton travail t'attend. Mais tu fais quoi? T'es déraisonnable. Tu as la honte de la famille. Personne ne fait ça, personne n'a jamais fait ça. Qu'est-ce qu'on va dire, nous? Et l'impact de la famille et de l'autorité familiale peut faire en sorte que la personne peut perdre son appel et rester à la maison et dire, bon, mais je préfère finalement avoir la paix et je reste là où j'en suis. Jésus nous a avertis que ça, c'est possible. Maintenant, il y a une question intéressante, c'est que la même situation s'est passée avec Élisée. Si vous regardez dans 1 Roi chapitre 19, Élie va passer près d'Élisée. Le jeune Élisée, ce sera donc son successeur. Élie va jeter son manteau, qui signifie, il va lui demander, en le revêtant de l'onction du Saint-Esprit, de poursuivre le ministère ou d'avoir part à un ministère spirituel. Élisée va faire son travail avec sa famille, il est en train de labourer, il est impliqué dans un travail familial et d'entreprise probablement, voilà. Et il va dire, mais j'aimerais encore juste rentrer à la maison. Et Élie va lui dire, tu peux rentrer. Mais, si vous lisez le texte, c'est écrit, réfléchis à ce que je viens de faire. Ça veut dire, tu peux rentrer à la maison, mais que ce que je viens de faire, c'est ça qui est prioritaire maintenant. Pense, prends avec toi la parole que je viens de te donner. Et Jésus sait que certains disciples, si la parole est encore fragile, alors nous rentrons à la maison et nous sommes déstabilisés. Et de nombreuses vocations ont déjà été perdues de cette manière. C'est vrai, de nombreuses vocations ont été perdues de cette manière. Je pense à des personnes qui avaient un appel où Dieu leur a clairement demandé, mais vous devez déménager quelque part ailleurs, où un des conjoints n'a pas voulu, parce que c'était personnel, c'était l'appel soit de madame ou de monsieur, peu importe. Mais l'autre n'a pas accepté cet appel, ne s'est pas soumis à l'appel de Dieu sur leur famille, sur leur vie. Et l'un a refusé et le couple est resté sur place. Et le plan de Dieu sur ce point-là n'a pas été réussi. Je pense à quelqu'un que j'ai connu. Il avait un appel missionnaire et sa femme n'a jamais voulu quitter et rentrer dans cet appel. Alors il a vécu toute sa vie avec cette peine et cette... Et quand on parlait de mission, bien, il pleurait, il était touché. Il dit, mais j'aurais tant voulu moi être moi aussi, avoir part à ce que Dieu a mis sur mon cœur depuis si jeune. Mais malheureusement, ma femme n'a jamais rien voulu savoir de tout ça. Alors, il a même cherché que ses enfants entrent dans sa vocation. Il a poussé son fils, mais toi tu peux devenir missionnaire parce que moi je n'ai pas pu l'être. Et il a transposé son appel sur son fils, mais ce n'était pas son appel. Et il est mort dans une tristesse, avec un vide, un manque, parce que dans sa maison, quelque chose n'avait pas été ensemble. Et je vais maintenant toucher un mot que je lis dans 1 Corinthiens 7, 29, sur lequel nous n'avons pas le temps non plus de tout expliquer, mais je vous invite à faire votre recherche personnelle et de poser des questions. À d'autres moments peut-être. 1 Corinthiens 7. Voici ce qui est dit au chapitre 7 et au verset 29. Voici ce que je dis, frères. Le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme ceux qui n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Je vais arrêter là parce que il faudrait voir tout le contexte. Je prends juste un élément pour souligner le point que je suis en train de voir avec vous. Mais il y aurait besoin de faire un grand commentaire, vraiment recherché, détaillé là-dessus. Mais voilà ce que je veux dire ce matin pour nous. L'apôtre Paul réalise que les temps sont courts, que le temps passe vite et qu'il est temps d'entrer maintenant dans le plan de Dieu, sans tarder, avec ce détachement pour être attaché à sa mission nouvelle. Et l'apôtre Paul dit, le temps est court maintenant, même dans les choses légitimes, dans les choses sacrées comme le mariage, il y a quelque chose. Il y a des moments. Et l'apôtre Paul va le dire au chapitre 7, toujours au verset 5, où il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est que momentanément et d'un commun accord. Pour la prière. Pour l'appel supérieur, pour l'appel d'urgence, pour le royaume de Dieu, pour la cause du royaume de Dieu, l'apôtre Paul va carrément dire, il est préférable d'être célibataire. Ça vous choque? Alors que le plan de Dieu, c'est le mariage quand même depuis la Genèse. Et ce plan n'a jamais été annulé. Mais pour lui, et c'est pour lui seul, parce qu'il va dire, Dieu a donné le don à l'un d'une manière, à l'autre d'une autre manière. Nous avons des dons particuliers, tous, les uns et les autres. Mais ce que je voudrais faire ressortir, basé sur mon expérience personnelle aussi et familiale aussi, c'est qu'il y a des moments où, d'un commun accord, nous mettons les priorités pour quelque chose de plus élevé. Et dans cette consécration et dans ce prix qui est payé, je souligne ça, pour un prix qui est payé, où parfois même, on est séparés quelque temps, mais d'un commun accord, séparés de corps, mais pas de communion, pas de cœur, ni d'esprit, en se bénissant mutuellement pour être libérés pour le ministère, pour le service, pour le travail que Dieu nous demande, pour ne pas que l'œuvre de Dieu en souffre, nous sommes d'accord d'encaisser quelques restrictions, quelques privations de liberté personnelle. Des choses légitimes, je les restreins volontairement. C'est comme le jeûne. Manger, c'est légitime. Vous avez le droit à manger. J'ai le droit de manger. Mais je m'en prive de quelque chose de légitime parce que j'ai un but supérieur. Chercher la face de Dieu. C'est plus important que de manger encore. Il est même dit que ceux qui pleurent et qui sont pris dans leur détresse, il faut à un moment donné stopper ça parce qu'on voit autre chose. Ceux qui rient, ceux qui se réjouissent, vous avez le droit de vous réjouir. Mais à un moment donné, il y a autre chose qui est supérieure. Ceux qui achètent, c'est bien, on a le droit de vendre, d'acheter, d'avoir des possessions. Mais à un moment donné, il y a quelque chose de supérieur. Il y a des attaches qui vont freiner notre ministère, notre service pour Dieu. Il serait bon de compléter tout ça bien plus que ce que je ne fais ce matin. Mais je voulais quand même en parler. Quand même en parler. Et j'aimerais dire que l'amour dans le couple ne diminue pas pour autant. Si on le fait avec sagesse, ce que je n'ai certainement pas toujours fait avec sagesse, mais quand les deux sont d'accord, en appuyant l'appel de l'autre, l'appel de Dieu qui résonne dans l'un et que l'autre discerne, eh bien, le conjoint doit encourager cet appel, frères et sœurs, encourager quelqu'un dans l'appel qu'il a reçu, votre conjoint, vos enfants aussi. Encouragez. Et même si vous devez restreindre un peu votre liberté, vous avez moins d'espace pour tout ce que la vie vous permet, vous restreignez un peu parce qu'il y a une cause noble supérieure. C'est ça que je voudrais vous dire. Séparation momentanément pour un but plus élevé. Notre devise à Jenny et moi, lorsque nous sommes mariés, a été celle, on avait trouvé ça chez Charles Studd, qui a été missionnaire en Chine, en Inde et en Afrique. Il disait, si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors il n'y a aucun sacrifice trop grand que je ne puisse faire pour lui. Que jamais l'un de nous empêche l'autre de servir Dieu. Et je pense aux chrétiens persécutés. On a eu ici des frères et des sœurs, quelques-uns, qui venaient de Chine ou d'ailleurs. Eh bien, ils étaient mariés, ils avaient une famille, mais aucune nuit, ils dormaient dans le même lit, toujours en fuite, pour ne pas être repérés, toujours en route. Ils étaient responsables de milliers de chrétiens, voire de centaines de groupes de maisons. Ils devaient toujours être en fuite, parce que la cause du royaume de Dieu, en cas de persécution, était supérieure même à leur communion de couple. Ils n'étaient pas séparés, de corps, oui, dans la souffrance, oui. Mais le royaume de Dieu se construit aussi dans la souffrance, frères et sœurs, se construit dans le sacrifice. Ce n'est pas juste comme ça, avec des méthodes et du management, qu'on construit quelque chose qui vient de Dieu. Non, c'est lui qui agit avec ce que nous mettons à sa disposition. Et c'est pour ça que je pense et je souligne la valeur de ces responsables spirituels dans les chrétiens, dans les pays où l'évangile est défendu. Quel mérite! Parce qu'ils vivent ça. Ils vivent ça. Je dois terminer maintenant parce que nous avons beaucoup parlé du détachement nécessaire, mais l'attachement est également nécessaire. Et je ressouligne ce que j'ai dit au début, l'attachement doit être volontaire. Ces choses doivent se faire volontairement. Il est dit, par exemple, il est dit dans Exode, qu'il faut apporter des offrandes de bon cœur. Psaume 54, je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Tout ce que vous faites, dira Paul, faites-le de bon cœur. Offrez à Dieu votre corps comme un sacrifice qui est un culte raisonnable. C'est un attachement à vie. J'avais encore préparé d'autres choses, mais le temps est trop court. Je reviens à mon histoire, le petit Anon attaché qui a été détaché. Il est détaché parce que le Seigneur en a besoin. Ensuite, il va participer à la même destination que Jésus. Jésus va rentrer dans sa ville, il va rentrer chez lui, il va être chez lui, et là où sera Jésus, l'annonce sera également, au même endroit. Il partage la même destinée et la même destination. Si tu t'attaches à Jésus, tu partages la même destination que Jésus. Tu auras part à sa gloire aussi. Et le petit Anon, eh bien, il aura droit d'être aux premières loges, au premier rang pour voir les applaudissements, les gens qui étendent leurs habits pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu vis le détachement et si tu t'attaches au Seigneur, si tu payes le prix pour ça, tu seras aux premières loges pour voir les miracles de Dieu, la gloire de Dieu et la présence de Dieu, comme personne ne va le voir. Tu seras aux premières loges, tu partageras la même destination que Jésus, la nouvelle Jérusalem, et le Seigneur te dira, bon et fidèle serviteur, j'avais besoin de toi, je t'ai trouvé, tu as obéi, et maintenant tu vas être récompensé comme jamais. Alléluia.